Spiritualité, c'est se tourner vers quelque chose qui est immatériel, donc quelque chose qui dépasse actuellement ce qu'on touche, ce qu'on voit du doigt, ce qu'on se préfère le poste, pour atteindre quelque chose en nous, parce que c'est en nous que se faisait la spiritualité, de cette façon, qui, au-delà de la pensée, nos pensées, notre mental, notre ego, prennent beaucoup de place d'habitude. Et nos pensées, vous savez que 99% sont inutiles, donc répétitives, donc inutiles. Et l'ego aussi attire à lui le constant, l'attention sur lui, et il veut avoir le centre d'intérêt, il veut être aimé, considéré, avoir de la gloire, avoir du pouvoir. Mais tout ça nous ramène vers des valeurs matérielles. Quand on dépasse ça, puis on va vers le spirituel, on rejoint en nous une dimension qui échappe au temps et à l'espace, qui nous remet en contact avec la source de toute vie, le mystère de la vie, qu'on peut appeler Dieu ou quoi que ce soit, mais c'est un contact-là qui fait qu'on est en lien avec le spirituel. Et quand on est en lien avec le spirituel, de cette façon-là, la religion devient moins importante. Parce qu'on est à un niveau de la spiritualité où la religion, elle est souvent du domaine des dogmes, des croyances, des rituels. Alors que là, on n'a plus besoin d'intermédiaires pour atteindre le mystère du divin. Et pour moi, cette spiritualité-là est plus universelle. Elle rencontre beaucoup plus les aspirations profondes de l'âme. Et la religion, parfois, peut être un bon moyen pour y arriver, mais parfois peut être aussi un obstacle au spirituel. Parce que si elle met trop l'accent sur les devoirs, les règles, les rituels, les préceptes, tout ce soit là, elle risque de bloquer notre accent vers le spirituel. Et à plusieurs reprises, j'ai vu ça.
J'apprécie beaucoup le travail de Léandre et de Gilbert sur le sens à donner à la vie. Moi, je me préoccupe dans mes recherches du sens à donner à la mort. Et ça ne fait pas partie de votre recherche. J'ai pensé tout à l'heure que le sens à donner à la vie, ça occupait la pensée et les préoccupations des riches que nous sommes. Et que le sens à donner à la mort est resté le sens que je cherche les gens qu'on assassine partout dans le monde. Est-ce que j'ai raison?
Si j'ai bien saisi, je dis que le sens donné à la mort est différent du sens qu'on donne à la vie.
On n'en parle pas.
Oui, mais à mon avis, si tu donnes du sens à la vie, tu donnes du sens à la mort par le fait même.
Non.
Oui, parce que la vie, si la vie continue après la mort, si tu donnes du sens à ta vie, tu donnes du sens à ta mort aussi en même temps.
Donc la réponse est que je ne sais pas.
Je pense qu'en donnant du sens à la vie, on donne absolument pas du sens à la mort. Il y a cette phrase de Michel de Montaigne qui m'obsède, je vais utiliser des citations aussi. Il y a cette phrase de Michel de Montaigne qui m'obsède depuis toujours. Heureuse, la vie est pénible à perdre, malheureuse, elle est pénible à supporter. Moi, j'en ai la première catégorie. Heureuse, pour moi, la vie est pénible à perdre. Elle est pleine de sens, je dégouline de sens de ma vie. Le sens intellectuel, affectif, amoureux, heureuse, la vie est pénible à perdre. Donc cet excès de sens fait en sorte que finalement, il y a un sens ultime qui m'échappera toujours, celui de conserver ce sens-là.
Celui de conserver le...
ce sens-là.
Ce sens-là. Je vais le
perdre. Pour ce qui est du sens de la mort, moi je vois ça comme intimement lié au sens à la vie aussi. Et je pense que ce qui peut relier ça, c'est la prise de conscience de la mort qui n'est pas nécessairement évidente. Combien de fois pensons-nous que nous sommes des êtres limités, des êtres mortels, d'une façon sérieuse, consciente et intrinsèque? Et à partir du moment où on fait cette prise de conscience, à mon avis, la vie prend son sens, et la mort aussi. Je sais que je suis un être limité. Et je ne cherchais pas à oublier, à noyer ça. C'est présent. Et pour moi, la perspective de la mort n'est pas quelque chose qui m'affaisse. Au contraire, je me dis, en attendant que je suis vivant, j'essaie de profiter de cette vie pour moi et pour autrui. Mais je considère en même temps que je dis ça, que ça ne répond pas tout à fait à ta question, mais je sais.
J'avais levé la main avant toi. Je veux rebondir sur une question que la question que Léon a posée à Gilbert sur est-ce que c'est un luxe de donner du sens à la vie. Une question que je me suis souvent posée. Est-ce que c'est un luxe aussi parce que, puis ça fait un lien avec la mort, c'est que le suicide est une maladie de riches. C'est-à-dire, c'est les riches qui se suicident, c'est nous qui sommes dans le luxe qui se suicident. Le suicide, ça n'existe pas beaucoup chez les pays, dans les endroits qui sont absolument... À Gaza, présentement, il y a beaucoup de monde qui se suicide, mais ils sont dans une situation. Alors, ça fait un lien aussi avec le sens de la mort. Est-ce que c'est un luxe? Le sens à la vie, mais le sens à ne plus vivre aussi. La perte totale de sens à la vie qui mène au suicide, est-ce que c'est aussi un luxe?
Peux-tu commencer?
Viktor Frankl, qui est un des premiers qui a insisté sur l'étude du sens de la vie. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le sens de la vie et la logothérapie ». Il a fondé même une thérapie là-dessus. Il a constaté que ceux qui avaient passé avec lui dans les camps de concentration, qui avaient subi beaucoup de difficultés, des peines, des bonhommes, des privations, ceux qui avaient passé à travers ça, c'est ceux qui avaient un sens de la vie. Même à travers les grandes difficultés de ces camps-là, ils disaient bon, ça à la vie. Et ça l'a tellement frappé que par la suite, il s'est dit le sens à la vie est tellement important que j'en vais en faire une nouvelle méthode de thérapie. Et ce qui veut dire que pour quand tu dis sens à la vie et la mort, pour moi, la mort c'est tolérable si on a un sens à la vie, d'une certaine façon. Si on a eu du sens à la vie beaucoup, elle est plus tolérable que si on n'a pas eu de sens du tout. Et à partir du moment où personne perd le sens, la névrose s'en suit et les idées suicidaires sont fréquentes chez les personnes qui n'ont pas de sens à la vie. Sauf que c'est très lié, la perte de sens des morts ou suicides, c'est très en haut. C'est pour ça que dans les pays qui sont en guerre, ils sont tellement préoccupés par la survie qu'ils n'ont pas le temps de penser à autre chose que ça, d'une certaine façon.
Pas de
suicide.
C'est ça, les cas de suicide peuvent venir de bien des raisons, le sens à la vie en étant. Il y a aussi la façon dont la personne se perçoit, ce qu'elle vit, les obstacles qu'elle rencontre. Ça, c'est l'élément individuel. Mais il y a aussi tout ce que la société offre ou n'offre pas, qui amène des frustrations, des difficultés et le goût de s'enlever la vie. Il y a un gérontologue qui disait « Si on s'occupait mieux des personnes âgées, il y aurait peut-être moins de suicides de personnes âgées parce qu'il y en a assez auto de suicides, comme vous le savez sans doute. Si on s'en occupait, on enlèverait peut-être ce goût de s'enlever la vie. » Donc, ça peut pour venir de soi. Et dans le sens à la vie qu'on se donne, ça peut être des éléments internes, comme ça peut être des éléments externes. Et parfois, la société ne fournit pas toujours. D'où la nécessité de l'action communautaire, sociale, etc.
Je pense que l'être humain vient au monde pour mourir. Dans l'ambiance. C'est dans l'ambiance. J'ai une belle-sœur qui disait à mon frère qu'elle avait un grand mal de tête. Denis, si un jour je meurs, j'aimerais donc qu'on me fasse une autopsie parce que je voudrais savoir de quoi je suis mort. On ne veut pas parler de la mort. Une professeure à l'université que je connais bien qui vient me voir, qui me dit « Jean, si un jour mon père meurt, j'aimerais donc ça que tu sois là. » Je lui dis « Répète donc. Si un jour, tu penses-tu que ton père au repas? » Relax. La plupart des humains sont mortels, moi aussi peut-être. Mais on n'ose pas en parler. Le sens à la vie, quand on est vieux, devient aussi l'obligation de voir comment on va finir. On va-tu finir un jour? Même quand on est très vieux, mais en santé comme j'ai bien, ça c'est rare. Mais il faut y réfléchir. C'est tout.
Comme disait une personne âgée que j'ai interviewé, je veux mourir de voûte. Oui. Je veux mourir,
gars. Pour amener la fameuse peut-être de l'Yvon des Champs, il vaut mieux être en santé et riche que malade et pauvre. Je paraphrasais cette phrase-là. S'il n'y a plus de sens à la vie, même une vie en santé et dans la richesse peut devenir insupportable. Et même, s'il y a du sens, même une vie sans santé et pauvre peut devenir insupportable. Tout est différent entre les deux.
Mais l'issue finale est la même. Pardon? L'issue finale est la même.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Là,
vous m'avez fait rajouter le 40. Le livre de Frankl, c'est Search for Meaning. Puis, c'était très significatif. Mais il y a une chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on a entendu parler, on n'a pas mentionné Maslow, on n'a pas mentionné Alford. Tous ces gens-là nous enseignent ce phénomène-là d'avoir des guerres. Rappelez-vous du livre qui, à un moment donné, qui disait Les passages de la vie. Vous vous souvenez de ça? Il y en avait 7, c'était à tous les 7 ans. Mais moi, aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est qu'on parle du sens de la vie, mais on ne parle pas des âges. Parce que c'est pas juste quand tu es vieux que tu as le sens de la vie. Moi, je ne crois pas ça. Puis, je le vois à l'heure actuelle, parce que tu me parlais l'autre jour, je viens de changer d'appartement, j'ai vendu ma maison. Mais là, je vois les gens qui sont à la retraite. Je m'aperçois aussi que leurs intérêts sont nettement liés à ce qu'ils faisaient pendant leur vie. Et non pas parce qu'ils sont vieux, qu'ils vont découvrir la lecture, et qu'ils vont découvrir les arts, et qu'ils vont découvrir toutes sortes de choses, si vous voulez. Donc, ça veut dire que ça a été développé pendant notre vie. Puis, rappelez-vous la hiérarchie de Maslow. Il nous disait que si ça va mal dans notre vie, vous allez revenir au niveau inférieur. Quand tu as parlé tantôt de dire qu'on est riche, puis parler du sens de la vie, vous avez raison. Parce que si tu n'as pas la santé, puis si tu n'as pas de l'argent, la vieillesse n'est pas trop intéressante. Hein? Puis quand on est jeune, je me rappelle quand j'essayais mes études à l'université, j'essayais de donner une signification, de dire dans tout ce qu'on fait, c'est important que ça ait un sens, même avec des enfants de 10 ans, ou de 20 ans, ou de 40 ans. C'est là que ça se passe. Puis quand vous parlez de la mort de M. Duclos, ben, search for meaning, la peur de mourir, c'est à tous les niveaux de la vie. c'est surtout quand tu as la maladie. Aller rencontrer quelqu'un qui a le cancer à 40 ans, il attend, il pense pas de vivre jusqu'à 80. Merci.
Dernière intervention?
Hubert Reeves vient de mourir et il a écrit un livre que j'ai lu dans les années 80 et qui a changé ma vie. C'est Poussière d'étoiles. Nous sommes des poussières d'étoiles. Et il me semble que ça oriente toute la vie. Nous faisons partie de la nature. Et c'est ça qui est la chose la plus fondamentale. C'est la nature qui est ce qui nous dépasse.
Bravo.
Je pourrais continuer.
Alors, le temps est venu déjà de remercier notre animatrice du panel et notre brillant conférencier qui, évidemment, nous amène dans un monde de réflexion dont nous ne sortirons jamais avant, effectivement, d'arriver à la phase terminale soulevée par Montecchio. Mais vos travaux ont été faits quand même essentiellement dans un milieu assez protégé, c'est-à-dire notre société à nous. Et moi, ce que je me dis, et donc, ils sont importants parce que il faut que chaque personne se sente concernée par ces réflexions-là et que chaque personne sente que ça fait partie aussi de son devoir d'être humain, probablement, de donner un sens à sa vie. Par contre, je me dis toujours que moi, je suis une vie parmi des milliards d'autres. Qu'est-ce qui me permet de penser que ma vie est importante? Parce que c'est ça la réalité du monde. Alors, j'en profite pour poser la question que je n'ai pas eu le temps de poser tout à l'heure. Mais donc, ça, c'est la réalité du monde. Et je pense que sans une approche ou une philosophie plus universelle, spirituelle aussi, qui nous permet d'envisager notre existence dans cet univers immense, c'est très difficile de donner un sens à sa vie qui nous sorte de notre petit contexte à nous. Alors, je veux vous laisser sur cette réflexion-là. Je m'excuse d'en ajouter à tout ce que vous nous avez déjà soumis comme excellente source de réflexion. Et donc, il est temps d'en rester là pour aujourd'hui. Encore une fois, merci. Merci pour votre présence. Et je pense, je vais terminer là-dessus, c'est M. Bernard Courteau, finalement, qui rejoint ce que je viens de dire également à propos de notre vie dans un univers de vie. Et ça aussi, c'est une source de réflexion extrêmement profonde. Et je trouve qu'elle demande autant de réflexion que tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Merci beaucoup.